Le 11e Festival BD de Montréal va s'animer très bientôt, du 27 au 29 mai, dans la rue Saint-Denis. Et le BDiste Michel Rabagliati est au bout du fil pour nous y convier. Bonjour, Monsieur Rabagliati.
Bonjour, Madame.
Merci beaucoup d'être avec nous en ce beau matin. L'organisation du Festival BD de Montréal vous présente comme son plus grand ambassadeur. De votre côté, comment présentez-vous ce festival?
Je ne suis certainement pas le plus grand, 5 pieds 7, c'est pas fort. Mais en fait, je me présente comme un gars qui fait des petits bonhommes pour gagner sa vie. C'est à peu près ça, c'est rien de bien ben folichon. Je suis bien heureux de pouvoir faire ce métier-là. Surtout, c'est surtout ça qui me charme et me comble, c'est que je peux vivre de mon art aujourd'hui avec ces publications-là.
Et le festival BD de Montréal est important dans votre parcours?
Ben oui, certainement. Premièrement, c'est mon festival préféré. Là. Je fais pas mal les festivals, pas mal. Je fais beaucoup de festivals. Bon, il y a Québec, Montréal. Bon, il y a surtout Angoulême en France. En France, il y a des centaines de festivals BD par année. Là. Il y en a beaucoup dans beaucoup de provinces, tout ça, dans beaucoup de petites villes. Moi, j'aime celui de Montréal parce que bon, c'est chez nous, puis je le trouve sympathique. C'est pas un vieux festival. Là. Ça fait pas 40 ans que ça existe. C'est la 11e édition seulement. Ça a été assez discret jusqu'à aujourd'hui. Habituellement, ça se passe dans le parc La Fontaine, sous la tente. Ça a commencé tout petit, une petite tente, ensuite plus grande tente, ensuite deux grandes tentes, ensuite trois grandes tentes. Puis les gens viennent. C'est intéressant. C'est le contact avec les artistes. Cet art-là, le 9e art, la bande dessinée. Il y en a pour les jeunes. C'est un festival. Il y en a pour les jeunes, les vieux. Il y en a pour les anglophones aussi. C'est un festival qui est bilingue, qui est assez spécial. Ça ressemble un peu. C'est un peu le petit frère du Festival de Toronto, le TCAF, Toronto Comic Art Festival, qui est un peu le même genre.
Qui se déroule à quelle époque de l'année, celui de Toronto?
Celui de Toronto, c'est exact, c'est début mai. Puis,
parce que c'est le mois de la BD, le mois de mai.
Ouais, ben, on dirait.
Oui,
c'est le mois de la BD. Ils appellent ça le mois de la BD. C'est vrai, vous avez raison. Oui.
Oui.
C'est pas marqué dans mon agenda COVID-10. Là, mais...
vous... Parce que vous, la BD, c'est à longueur d'année. Il n'y a pas de mois vraiment.
Non, c'est ça.
Non.
C'est ça.
Et hier, je vous ai vu à Bonsoir, Bonsoir. Vous parliez de la bonne santé de la BD en général, mais aussi en particulier au Québec.
Oui. Ben, on peut dire que la bande dessinée se porte bien. Il y a des auteurs, il y a des éditeurs. C'est assez... récent, tout ça. En fait, on est sorti un peu du système où, pour faire de la bande dessinée, il fallait prépublier dans des magazines, des hebdomadaires, tout ça. Ça, c'est un peu la formule franco-belge des années 50-60. Maintenant, on est rendu un peu ailleurs. Les auteurs sont des gens maintenant qui travaillent pour eux, probablement la plupart du temps sur des livres longs. Tu sais, il n'y a plus beaucoup de plateformes de prépublication. Là.
Des livres longs, ça veut dire combien de pages?
Ben, tu sais, entre 50 et 200 et 300 et 400.
Ah, oui,
on est là-dedans maintenant en bande dessinée. Puis les gens prennent le temps de faire ça, puis ont envie de raconter en long. Puis il y a aussi tout le pan de la bande dessinée adulte qui s'est développé aussi beaucoup là, ces dernières 20 dernières années. Beaucoup de bandes dessinées pour adultes. Là, encore une fois, on spécifie pour adultes, ça ne veut pas dire 3X.
Non.
Je parlais justement tout le temps de cette différence-là entre roman graphique et bande dessinée pour adultes. On utilise souvent le terme roman graphique pour éviter de dire bande dessinée pour adultes parce que ça fait encore
3X.
C'est comme les films pour adultes. C'est niaiseux, mais on le disait dans le temps, les films pour adultes.
Oui,
donc,
oui.
On savait que c'est des films cochons. Les bandes dessinées, on disait des bandes dessinées pour adultes. Ah, OK, c'est des BD cochons. Maintenant, c'est ça, la bande dessinée pour adultes, pour... Les anglophones, ils ont le bon terme, ils disent « for mature readers ». Ça, c'est autre chose. Ça veut pas dire 3X. Je trouve qu'ils ont un bon mot pour ça.
Oui. Bande dessinée pour personnes matures.
Pour personnes matures, ça fait pas beau en français.
Non, pas vraiment. Est-ce que vous trouvez que la BD a la couverture médiatique qu'elle mérite, Michel Rabagliati?
Ben, je trouve qu'au Québec, franchement, ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré là, depuis moi. Moi, quand j'ai commencé en BD, quand j'ai commencé en 98, on parlait pas de bande dessinée dans les journaux. Il y avait pas d'article, il y avait pas de colonne là-dessus. Personne n'en parlait. C'était un peu mort. Puis puis tout à coup, il y a des journalistes spécialisés, là, comme Alexandre Vigneault, Fabien Deglise, dans Le Devoir, qui ont commencé à en parler, puis ça a fait beaucoup de bien. On a vu des journalistes sérieux commencer à parler de bande dessinée, ouais. comme des critiques de cinéma, des vrais critiques, voici ce qui sort cette semaine. Ça a commencé un peu avec la BD adulte. Hein. On parlait pas du dernier Spirou, du dernier Gaston, du dernier Lucky Luke. Ça, on voyait rarement ça peut-être dans les journaux, là. Sauf dans le temps de Noël, peut-être, pour faire la promotion du dernier Astérix, Lucky mm-hmm. Luke, etc. Mais là, maintenant, il y a des colonnes, je veux dire, dans Le Devoir, dans le journal de Montréal, ça parle de BD quasiment toutes les semaines. Ça, c'est vraiment cool. C'est ça, on peut dire que c'est une sacrée différence.
Est-ce que vous aimeriez vous-même écrire ou faire une chronique sur ce qui sort en BD?
Ah, ben, je dirais pas non, ça pourrait être intéressant.
Parce qu'il y a votre collègue Jean-Paul Hyde qui le fait à Radio-Canada.
Ouais, Jean-Paul Hyde le fait tellement bien, c'est comme j'aurais pas besoin.
Non, mais ça pourrait être intéressant avec lui, là, oui, en duo.
Oui, ça pourrait être fun. Mais il le fait avec François Lemay, qui est également très, très bon. C'est des gens qui ont plus de mots que moi, là. Moi, je suis un petit peu énervé.
Jusqu'à maintenant, ça va très bien. Est-ce que vous trouvez que la communauté des BDistes est une communauté tissée serrée?
C'est un fait. Je connais tout le monde. Oui. Tout le monde me connaît.
Mais est-ce qu'il y a de la compétition?
Écoutez, de la compétition. Tant mieux s'il y en a. Moi, ce que je trouve important, c'est que tout le monde fasse de son mieux, mm-hmm. puis que des choses se publient une fois qu'elles sont mûres, je trouve. Tu sais, en édition, je trouve qu'il y a beaucoup, par exemple, en édition jeunesse, il y en a beaucoup. Tu sais, c'est comme il y a des brouettes de nouveautés toutes les semaines. Des fois, je regarde ça, je dis, ah, il y a des recoupements, c'est pas abouti. C'est un peu comme ça dans tout, d'ailleurs. Je veux dire, il y a peut-être une surenchère des fois en culture, en roman, en film, au cinéma, tout ça. Des fois, tu dis, mon Dieu, il me semble que j'ai déjà vu ce film-là. Ah, il me semble que ce film-là ressemble à celui-là. Il me semble que celui-là, bon, ça aurait pu être un peu plus travaillé. Moi, en tout cas, je suis partie prenante. Je suis un artiste qui essaye de faire de son mieux, puis j'attends que mon truc soit mûr avant de le sortir. Mais il y a bien des bonnes affaires. Il y a bien des bonnes affaires. Il y a des affaires moyennes. Il y a des affaires qui auraient pu être plus travaillées. Là, mais c'est comme dans tout. Mm-hmm. Moi, je suis assez critique en BD. Je veux dire, ma maison est pleine là, de livres. Fait que avant d'en acheter une, faut que ce soit quelque chose qui est abouti, qui est bien travaillé, qui va faire mon bonheur, qui va me procurer une émotion. Sinon, le livre, il rentre pas dans la maison. Ça sert à rien d'en ajouter là, jusqu'au plafond. Là.
Mais comment vous faites pour l'acheter? Parce que vous dites, avant de l'acheter, il faut que je sois sûr qu'elle soit bonne, mais vous ne l'avez pas lu encore.
On a nos auteurs préférés. Je regarde, je suis qu'est-ce qui se passe. De la même façon qu'en roman ou au cinéma, je regarde ce qui se passe, je lis les critiques, je suis ces auteurs-là, j'ai des auteurs, bon, j'ai une liste d'auteurs auxquels je suis attaché, j'aime leur travail, habituellement je suis acheteur de leur travail quand ça sort, là, tu sais, mais j'achète pas tout, je suis très picky, comme on dit, pour ce qui va rentrer dans la maison, que je vais mettre sur les rayons. Là.
Est-ce que vous avez des idoles ou des sources d'inspiration, vos BDistes préférés, peut-être?
C'est certain, j'en ai des idoles. Du côté... on a nos idoles de jeunesse là, qui sont comme au Panthéon, puis que bon, c'était Hergé, évidemment, pour Tintin, Franquin pour Spirou Gaston. Ça, c'est des auteurs qui m'accompagnent depuis l'enfance, c'est des exemples. J'utilise même leur trucs dans mes bandes dessinées. J'ai appris beaucoup d'eux en lisant, tu sais, c'est des intouchables, tu sais. Aujourd'hui, en BD contemporaine, ben là, c'est plus éclaté, il y a beaucoup de monde, puis les gens, c'est plus la distribution aussi puissante, tu sais, un Tintin, ça envahissait la planète quand ça sortait à Noël, dans le temps, c'est des millions d'exemples, tu sais, des millions d'exemplaires, il n'y a plus de tirage de fou de même aujourd'hui.
Parce qu'il y en avait moins à l'époque, c'est ça?
Ben oui, c'est ça, il y avait moins, puis les vedettes étaient immenses, Hergé, Franquin, Greg, Achille Talon, Maurice avec Lucky Luke, tout ça, c'était Roba avec Billy Bill, c'est des tirages de malades, là, tu sais, des affaires de 500 000, 1 million, 1 million, 0.5 copies, ça n'existe plus vraiment, des trucs comme ça, là. C'était à cause aussi des prépublications magazines, tu sais, le journal Spirou, le journal Tintin, le journal Pilote, tout ça circulait dans les mains des enfants dans les années 50-60, puis à Noël, ben, il y avait souvent en fait, le système, c'est qu'il y avait l'album qui sortait à Noël. Tout ce que tu avais lu pendant l'année dans ton hebdomadaire sortait relié 44 pages couleur à Noël. Puis l'éditeur mettait ça sur le marché. Puis là, tout le monde faisait un paquet de fric avec ça. Parce que c'était des tirages de fou, là, tu sais, juste pour la France. Ouais. C'est 70 millions de personnes. Il y a des lecteurs en Belgique, en France, en Suisse. C'est des grosses quantités. Aujourd'hui, c'est ce que moi, en fait, je suis plus là-dedans. Ces auteurs-là m'intéressaient jeunesse, mais les auteurs qui me touchent en tant que lecteur adulte aujourd'hui.
Lecteur mature?
Ouais, ben, lecteur mature, c'est plus des gens bon, comme Chris Ware aux États-Unis, Christian Blotch, par exemple, en France. C'est pas des gars qui ont des tirages si immenses, mais c'est des grands artistes que moi, que je considère comme artiste professionnel. C'est vraiment des très grands conteurs et des artistes vraiment accomplis. Mais c'est pas des gars qui sont tant que ça dans les réseaux. T'sais, on les voit pas dans les magazines, on n'entend pas trop parler. Ça reste assez confidentiel. T'sais.
Bon, alors d'où l'importance de peut-être lire un jour Rabagliati dans les journaux là, pour nous donner justement ces tuyaux-là. Est-ce qu'il y en a des femmes qui vous intéressent dans le milieu de la BD?
Ah, des femmes? Ah oui, il y en a qui sont superbes, il y en a qui, des filles qui travaillent très bien maintenant. Ça aussi, c'est, moi, parlons-en, ça a débloqué, ça, tu sais, mais au Québec, il y a Caton, il y a Iris, il y a Viviane, Catherine Lepage, moi que j'aime beaucoup, là, qui est à la pastèque, ça bouge de ce côté-là. En France aussi, ben, tu sais, dans le temps, il y avait juste Bretéché, mais maintenant, il y en a plein de filles qui en font de la super bonne, là.
Est-ce que vous comprenez, Michel Rabagliati, les gens qui vous disent « Moi, ça ne me parle pas la BD, je ne comprends pas ce monde-là. » Est-ce que vous essayez de les convaincre ou vous les respectez?
Ben,
ou
un... Écoutez, c'est parce que je comprends quelque chose. Je peux les comprendre parce que c'est que lire de la bande dessinée, c'est spécial. Tu sais, c'est comme c'est un art qui est spécial à fabriquer, mais à lire aussi parce que...
Mais oui, ça s'apprend, j'imagine.
C'est en séquence. Tu sais, fait que là, si tu n'embarques pas dans le trip de la séquence... c'est-à-dire de figurer qu'est-ce qu'il y a entre les deux cases, parce que ce qui fait peur aux lecteurs souvent, puis ce qui les désarçonne, c'est la gouttière, comme on appelle, c'est l'espace entre les deux cases, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, tu sais. Puis l'auteur demande au lecteur de faire le lien, de faire l'ellipse. C'est au lecteur de dire, bon, je vois une maison dans la première case, puis je vois un gars couché dans un lit dans la deuxième case, qu'est-ce qui se passe?
En fait,
les gens le font tout le temps au cinéma, mais comme ils voient pas la gouttière. T'sais, au cinéma, on va te montrer un hôpital, dans le frame suivant, il y a un gars couché dans un lit. Tu dis, ah, le gars, il est couché dans le lit, dans la chambre d'hôpital. L'ellipse, elle s'est faite automatiquement dans le cerveau du spectateur. Mais en BD, c'est pas prémâché comme ça. C'est que les
faut pas être paresseux.
Les cases sont en séquence immobile, puis là, c'est au lecteur de dire, de jumper, puis de dire, il s'est passé ça, ok, si y a cette case-là me dit ça, c'est parce que là, il s'est passé ça entre les deux cases. Mais je pense que c'est ça qui les bug, peut-être les gens qui lisent, là, les gens pour qui la bande dessinée, c'est emmerdant à lire, c'est peut-être ça, parce qu'ils ont pas, ils se sont pas laissés aller dans le trip de la séquence, tu sais. Mais en même temps, c'est une façon de lire, je pense, mais il y a des ellipses à faire dans notre cerveau. Quand on lit un roman de John Irving ou de n'importe qui, le gars ne nous dit pas tout, puis en plus, c'est à nous autres de se fabriquer les décors, les odeurs, les costumes, on ne sait même pas où ils sont, mais avec des 26 caractères, ils réussissent à nous faire voyager. C'est encore plus difficile, il me semble, en roman qu'en bande dessinée, parce que là, au moins, on donne des images. Mais c'est ça, je pense que c'est la façon de lire, le mode de lecture qui peut rebuter des gens. Voilà.
Vous avez illustré l'affiche du Festival BD Montréal et puis on voit le personnage. Est-ce que c'est Paul?
Oui, c'est un Paul. Je l'appelle petit Paul, celui-là qui a une grosse tête, parce qu'il est assez. Parce que c'est un personnage qui est assez long, hein, dans les proportions. Il est assez vertical, Paul, mais des fois, il est pas pratique pour des images plus compressées comme ça. Fait que j'ai une version avec une grosse tête. Donc sa tête est de la même grosseur que son corps. Ça me permet de faire des petits bonhommes, vraiment, entre guillemets. Là, c'est facile à placer dans des cases. On voit souvent ça d'ailleurs dans les strips que j'ai fait d'ailleurs pour l'affiche. C'est comme une espèce de. J'ai singé un peu un vieux strip mal imprimé, là. Puis on voit souvent ça dans les dans les strips de journaux, les personnages ont des très grosses têtes puis des petits corps parce que c'est imprimé petit, c'est imprimé cheap sur du papier très bonne qualité. On veut voir le personnage. Fait que, tu sais, Philomène, Félix le chat, tout ça, ils sont toujours disproportionnés comme ça parce qu'on a besoin d'une grosse tête expressive. Le corps est pas si grave que ça parce que tu peux bien voir qu'il est en train de marcher sans voir les chaussures tout au détail puis tout ça. Puis il y a aussi que les phylactères prennent de la place. Hein, les bulles, il faut quand même mettre du texte dedans. Fait que ça, c'est très compressé, hein, le strip journal. Là. Moi, c'est un autre mode de bande dessinée un peu. C'est vraiment un mode à part. Là. C'est comme faut parler en 3 cases très rapidement, raconter quelque chose très rapidement en 3-4 cases. Moi, je trouve que c'est très sportif faire ça. Ceux qui font ça, c'est on a l'impression que c'est cheap, que c'est une narration cheap ou que c'est pour les demeurer, là, les strips de journaux, mais c'est comme,
c'est pas le cas.
C'est très bien fait, puis il faut y penser en maudit pour faire un bon gag dans un journal. Là.
Et Tipol, donc, sur l'affiche, ça prend un râteau en pleine face. Pourquoi ce choix-là?
Ben, en fait, là, je suis allé avec des clichés de strips de journal, les vieux gags de bande dessinée. Tu sais, en bande dessinée, tu as la pleure de banane, tu sais, tu glisses sur la pleure de banane, tu tombes dans une bouche d'égout, puis tu reçois un râteau d'en face. Ces trois gags-là, il y a des auteurs qui ont fait beaucoup, beaucoup de millages avec ça dans les années 30, dans les années 20. C'est un vieux gag. Il y a aussi le boyau.
Mais qui fait toujours rire.
Pardon?
Un vieux gag qui fait toujours rire.
Oui, c'est comme recevoir de l'eau d'un boyau d'arrosage d'en face. Ça fait rire. Je pense que c'était le premier film des Frères Lumière. Je pense que c'était ça qu'ils ont fait. Ah. C'est un gars qui regarde un boyau d'arrosage, puis il y en a un autre à l'autre bout qui a comme coincé le boyau, puis là, il laisse aller, puis il reçoit de l'eau d'en face. Je pense que c'est le premier gag au cinéma qui s'est fait avant Charlie Chaplin.
Wow! Et alors, ben, le temps file, Michel Rabagliati. Vous allez participer au festival? Est-ce que vous allez être en quelque part en particulier?
Oui, ben, c'est ça. Il faudrait regarder la programmation du festival. Là, donc, FBDM, trait d'union MCAF là, en anglais, parce que c'est le festival ebiling.com ou .ca. Là-dessus, il y a la programmation. Ben, je vais être là vendredi et puis je vais être là dimanche. Puis je vais aussi me promener un peu autour. C'est intéressant parce que c'est une édition sur la rue qu'on n'a jamais fait. Il va y avoir... la rue est fermée, fait que c'est cool. Fait qu'on peut y aller en poussette, en bicycle.
On va pas en auto.
Non, allez-y pas en auto. Ça va être l'enfer. Fait que je vous conseille le métro Mont-Royal ou Sherbrooke. Donc, ça s'étend, ou même le métro Laurier, parce que ça s'étend de Guildford à Roy sur 1,5 km. Il y a une centaine de tentes. Puis dans ces tentes-là, ben là, il y a les éditeurs officiels du Québec, il y a les éditeurs aussi européens, puis il y a des gens qui sont là pour... il y a les auteurs aussi. Ce qui est intéressant, c'est toute l'auto-édition, la micro-édition, les bandes dessinées éditées à compte d'auteur. Les auteurs sont là avec leurs bandes dessinées qui ont des fois publié eux-mêmes. Ça, c'est très cool, pouvoir les rencontrer. Il y a des activités pour les jeunes, des ateliers, il y a toutes sortes d'affaires, de la BD improvisée, des rencontres, des conférences, puis évidemment, tous les commerces de la rue Saint-Denis qui sont ouverts en arrière-plan, puis on n'a pas, tu sais, c'est cool, on peut y aller en bicycle, c'est relax. Ça va, je pense que ça va être très, très champêtre et le fun, cette affaire.
Bien oui, on vous souhaite une belle météo, évidemment, pour que tout se passe dans le plaisir et non pas sous la pluie, mais malgré que les chapiteaux peuvent vous protéger.
Oui, on prie pour ça. C'est sûr qu'il y a déjà vous, salut Marie, qui se font en ce moment.
Bien, ça a été un plaisir de vous parler, Michel Rabagliati, et j'aurais aimé savoir sur quoi vous travaillez en ce moment, peut-être en 10 secondes.
Je travaille sur un roman illustré, en fait, pour être plus précis. Donc, un roman avec des illustrations.
Avec Paul en vedette?
Paul en vedette, oui. Paul en vedette, mais sous une autre forme, au crayon de plomb, plus relax, des grandes illustrations plus aérées. Voilà.
Alors, en attendant, on peut lire la collection des Paul et aussi Paul, publié chez La Pastèque en collaboration avec Michel Giguère, un ouvrage monumental, passionnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis bon festival.
Merci infiniment.